Bonjour à tous. En ce dernier jour de 2017, Interception vous propose d'écouter ou de réécouter un reportage qu'Olivier Denré nous avait offert au printemps. Je dis offert parce qu'il a suscité à l'époque, chez vous, les auditeurs d'Interception, un sentiment de sympathie assez exceptionnel. Retour ce matin sous la toile du Cirque Plume. Plume est né en 1984, alors que le cirque se porte très mal en France, beaucoup prédisent même sa mort. Mais la troupe va déjouer tous ces funestes pronostics en cassant totalement les codes. Un joyeux mélange d'acrobatie, de poésie, d'humour, lié par des musiques originales, constitue sa marque de fabrique. Le succès ne se démentira jamais pendant ses 33 ans d'existence. Mais voilà, le spectacle actuel est aussi le dernier. Les créateurs ont décidé d'arrêter à l'issue d'un ultime tour de piste qui va durer 4 ans. Les historiques estiment que cette superbe aventure artistique et humaine doit s'arrêter, qu'elle ne peut souffrir aucune bataille d'héritiers. Le Cirque Plume tire un trait, c'est un reportage d'Olivier Denré, prise de son Yann Frécy et Jean-Marie Porcher.
Interception, le magazine de la rédaction.
Là, on fait tranquillement le tour du Cirque Plume. C'est un très beau chapiteau jaune. Puis devant nous, il y a Benoît Chic, le compositeur musical du cirque, qui se chauffe les doigts avec son accordéon. Dans une petite heure maintenant, tout ce beau monde, artistes, acrobates, musiciens, sera en coulisses pour la générale de leur tout dernier spectacle qui s'appelle La Dernière Saison. On a de la chance, il fait beau. On est au pied de la citadelle de Besançon.
Bonsoir Benoît.
Salut.
C'est étonnant de vous voir là, entre la quiétude des oiseaux qui sont dans les bois juste derrière, ouais, au pied de la citadelle, et puis le brouhaha du public.
Ouais. Et
puis cet accordéon. Le temps de la répétition avant d'y aller.
Ouais, je me chauffe les doigts parce que je me suis écrit des parties plutôt compliquées pour la toute fin du spectacle. Et je n'ai pas pris beaucoup de temps pour travailler mon accordéon là, ces jours-ci, parce qu'il a fallu que je m'occupe des autres. Donc là maintenant il faut que je règle mes problèmes à moi. Là. Donc j'ai ce soir pour prendre un peu la température. Puis il y a des déplacements, il fait 18 kilos, hein, donc en 16 kilos. Là, c'est déjà quand tu te lèves, toi, tu te rassois, faut que tu joues entre trois parapluies, c'est le cirque.
Merci, vraiment merci d'être là à cette générale. C'est une générale, et c'est une répétition générale. Et c'est tellement de générale qu'on a Pierrot et Odile qui sont en train de changer un câble là-haut, donc c'est pour ça qu'on est un peu en retard. Ça me rappelle nos débuts, c'est parfait. Mais je voulais donc vous remercier d'être tous là. On va faire naître ce spectacle. On l'a préparé il y a trois ans, mais on ne le connaît pas. Parce que pour le connaître, il manquait une grosse partie du spectacle. Et la grosse partie, c'est vous. Alors merci de participer à cette création de la dernière saison du Cirque Plume. Et bon spectacle, bonne soirée. À tout à l'heure, merci.
Depuis le 18 mai dernier, le jour de cette répétition générale, les gradins du cirque ne désemplissent pas. 1000 spectateurs tous les soirs. Sur scène, la troupe dirigée par Bernard Cudlac joue avec les saisons, l'automne et les porteurs de brouillard, l'hiver et ses flocons de plumes. L'hiver, justement, quelques mois plus tôt, nous sommes alors à la fin du mois de février. Tous les artistes ont rendez-vous à Besançon pour s'approprier cette ultime création. Autour du chapiteau installé au bord du Doubs, les caravanes attendent le retour de leurs occupants. Cyril Casmez arrive de Paris. Le campement est presque désert.
Bonsoir.
Cyril, vous venez de garer votre voiture à côté de votre caravane.
Oui, alors ma caravane qui n'est pas ma caravane, mais qui est celle que le cirque me prête pour X temps. Oui. Voilà, une belle grosse caravane.
C'est la dernière ligne droite, c'est ça?
Oui, on a déjà bossé un mois et demi avant Noël. Et là, on reprend, oui, pour les deux derniers mois et demi, ou trois mois, je ne sais plus, avant la première. À Besançon, donc.
Attends, je vais déjà voir si tout va bien avec la caravane, si l'électricité marche. Bon. Alors déjà, le chauffage a l'air en marche. J'avais demandé à ce qu'on me le mette.
la lumière marche, c'est pas mal. Il y a quand même des dessins de ma fille, là, qui sont toujours là, de la petite.
Pour papa, j'espère que tu passeras un bon séjour au Cirque Plume. Gros bisous. Je pense à toi très très fort. Ça, c'est un mot de votre fille.
Oui, Joséphine, la petite. Voilà.
Vous êtes tout seul, là, dans le camp ? Quasiment.
Non, je sais pas, on va peut-être aller faire un tour, mais je sais pas. Je vois une caravane, là, il y a de la lumière, là. Alors, ce spectacle du cirque est le dernier, effectivement, après, je sais plus, que je dise pas de bêtises, mais plus de 35 ans d'aventure du cirque. Et le spectacle est sur le... Oui, assume le temps qui passe, c'est-à-dire que c'est la dernière saison. Donc, dans le spectacle, il y aura un peu tous les âges. Moi, je serai un peu dans le milieu, voilà. Il y a les jeunes, les un petit peu moins jeunes, et puis les un petit peu plus âgés. On va jouer avec ce qu'il y a, là où on en est, chacun. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de faire exactement ce que je faisais quand j'avais 30 ans, par exemple, ou 25. De toute façon, moi, j'ai eu un petit souci physique, un petit accident non négligeable qui m'a quand même un peu estropié. Je retiens debout, mais le questionnement est de faire avec là où on en est et sa vulnérabilité. Ce qui est intéressant, parce que de toute façon, l'état de l'interprète, pour moi, il doit être en état de vulnérabilité. J'ai une pharmacie, c'est déjà ça. Eh ben écoute, oui.
La pharmacopée, c'est plus important que la literie à
oui.
ce stade.
Ah non, mais ça rassure, en fait, ça rassure.
Il y a un gros sac là, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Oh, il y a des crèmes d'acrobates,
C'est quoi les crèmes d'acrobates ?
Oh, c'est des trucs qui chauffent, qui détendent, voilà.
Est-ce qu'avec le temps, c'est aussi un sac qui grossit ? Est-ce qu'on fait plus attention aujourd'hui à ce corps qui passe avec le temps ?
J'ai pas plus de médoc ou de produits pour me faire du bien, mais oui, je fais plus attention, je m'échauffe plus longuement, je me lance pas tout de suite dans des choses physiques sans trop réfléchir parce que voilà, ça pardonne un peu moins. Alors, vous avez vu en arrivant tous les camions du Cirque Plume, voilà, et sinon c'est des caravanes et des camionnettes. Ici, les choses marchent beaucoup par camion. Un camion cuisine, un camion douche, camion toilette. Voilà, c'est encore pour une partie d'entre nous une vraie vie d'itinérance.
C'est le fief historique, Besançon.
Oui, Besançon, c'est le fief historique du Plume. Les bureaux sont là, ça répète ici en général ou dans la région. Donc ce soir, ça explique qu'on n'est peut-être pas bien nombreux là dans le campement. Hop. Eh ben heureusement que vous êtes là, hein, parce que j'aurais déprimé un grand coup, moi, là.
Ah,
mais
il y a quand même du beau aussi, vous voyez.
Ah, bah bonjour.
Alors, lui, normalement, celui que j'embrasse, il a des cheveux de rasta de 2 mètres de long. Et là, regardez, il a une tête de petit garçon. Il s'est fait une petite coupe de. Oh, il est mignon. Tu faisais 20, Julien, oui, il faisait 28 ans. Il en fait quoi? T'en fais 14?
Ouais, 17. Ouais. 16, quoi. Ça va?
La cuisine qui se remet en route.
Ça y est, ouais, tout doucement, là, on se remet en route. Je m'appelle Solange Jugonot, je suis une des trois cuisinières du Cirque Plume. Ça fait quoi, maintenant 25 ans que je travaille ici.
Donc c'est vous qui avez la charge de nourrir toute cette équipe matin, midi et soir depuis 25 ans.
Voilà, c'est l'équipe, ouais.
Qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui ?
Alors, il y a Dipti qui nous fait des pâtes, sauce tomate, viande, tout ça. J'ai de chez l'incombe, ma Dipti. Moi, je fais un petit sauté de... Ça va ? De côte de bête avec des pois chiches, avec une petite pâte de curry, une salade verte, du fromage, et en gros, ce sera tout. Voilà. C'est des bons mangeurs, et puis certains, ils ont des régimes particuliers. Ouais. On a des fois des végétariens, des allergiques, donc on s'adapte.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure du Cirque Plume ?
Bah, un petit peu tout, hein. Bah, déjà, le père de mes enfants, ça m'a bien plu. Et puis après, bah oui, partir, être en caravane, bouger, tout ça, c'est sympa, quoi. Revoir toute la troupe, comme ce matin. Des cuisines comme ici, en tournée, il n'y en a quasiment pas. En général, la troupe arrive et c'est plutôt les gens qui viennent, les gens du coin qui viennent leur faire à manger, ils ne se connaissent pas spécialement. Ils vont faire des choses un peu... ça plaise à tout le monde, voilà, ils ne connaîtront pas les petits... là, on fait un petit peu pour Lolo, un petit peu de ci, un petit peu de ça, voilà quoi. une troupe qui a sa cuisine à elle, il n'y en a quasiment pas. Hein. Il n'y en a pas des kilomètres. Non, moi, je me sens à mort privilégiée, quoi. Ouais. Ah, l'eau qui chauffe. Merci, ouais. Des petits, ouais.
Je suis Jean-Marie Jacquet. Alors, je suis un des membres fondateurs du Cirque Plume. J'ai joué pendant 20 ans dans les spectacles.
Qu'est-ce que vous faisiez dans les spectacles quand vous étiez sur scène ?
Eh bien, j'ai commencé par être un simple batteur dans l'orchestre qui faisait quelques interventions clownesques à droite, à gauche, parce que tout le monde a envie d'exister dans un spectacle, voilà, en tant que personnage. J'ai toujours été attiré par la magie, mais la magie, c'est compliqué, ça demande énormément d'entraînement. Et donc, je pouvais pas être performant, c'était pas possible. Donc, à force de travail, à force de rater des tours, j'ai développé un personnage qui ratait ses tours. Et à la fin, je réussissais quand même quelque chose, parce qu'il faut quand même bien une surprise à la fin du numéro. Et les fondateurs du Cirque Plume, on n'a fait aucune école de théâtre, ni de musique, ni de quoi que ce soit, ni de cirque, ça n'existait pas à cette époque-là. Et moi, par exemple, je viens d'un milieu assez populaire, donc mon père était épicier dans un quartier en désertification. J'étais destiné à être à travailler dans une usine, à être plutôt technicien qu'ouvrier, parce que mes frères étaient ouvriers, donc moi, il fallait que je sois technicien, il fallait plutôt que je règle les machines, hein. Mais j'avais quand même envie d'autre chose. Il y avait de tels horizons et tout. Et donc, j'ai commencé à faire la musique, à faire des trucs. Mais c'est tout appris sur le tas. Et puis, de rencontre en rencontre, je me suis retrouvé à jouer dans une fanfare de rue qui a commencé à faire du spectacle de rue et puis qui est devenu le Cirque Plume. Mais tout ça, c'est des rencontres du hasard. Et sans l'avoir projeté, je me suis retrouvé sur une scène face à un public et à pas seulement faire de la musique, mais à faire du jeu. Il faut amuser la galerie et puis on se découvre aussi des talents comiques qu'on ignorait.
Ah ! J'enrage ! J'enrage, oui ! Oui, parce que, ouais, c'est ça ! On dit toujours ça ! Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Ah ! Père Noël, avec tes joujoux par milliers.
On avait le cirque dans la tête,
mon petit Pierre.
Avec Fellini, avec Chaplin, avec Buster Keaton, on avait le cirque avec Henry Miller, on avait le cirque avec le vieux saltimbanque de Baudelaire. On avait toutes les images du cirque, mais moi je ne connaissais pas le cirque.
Bernard Cudlac, le directeur artistique et le metteur en scène du Cirque Plume.
C'est plutôt la poésie, hein. Je suis venu...
Mais... Dès qu'on a mis un peu la main dans les malles du cirque, vraiment c'était la caverne d'Ali Baba.
Vers les hommes des grandes villes.
Qu'on soit un agrégé de mathématiques, un candidat à la présidence de la République ou un ouvrier maçon, on a la même peur, on a les mêmes charges émotionnelles, on est de la même façon forgé par son enfant intérieur. On est face à un coucher de soleil, tout le monde est très ému, on n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour goûter la beauté d'une forêt ou d'un coucher de soleil ou d'un chant d'oiseau ou juste d'un nuage, enfin, etc. Donc, il y a de la puissance de beauté dans le monde. Alors aujourd'hui, l'art a dédaigné la beauté, mais c'est sûrement pour nous apprendre à accepter l'horreur du monde urbain et actuel. L'art contemporain,
c'est un sacré paradoxe,
est collaborateur de ce qu'on est en train de détruire sur cette planète en disant « il n'y a plus que ça qui existe ». Non, la beauté est. Et le cirque, pour moi, j'ai vite vu que c'était la nostalgie du paradis. C'est l'endroit où tout est possible, c'est l'endroit où on a le souvenir d'avoir été des anges. Et tout le monde a ça, et presque toutes les cultures ont cette idée-là, qu'il y a eu à un moment donné, bon sang, on faisait partie du monde à 100%, on était le monde. Et le cirque retrouve ça. On a tiré ce fil-là jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé. On fait les spectacles pour les mêmes raisons qu'on a fait le premier.
On va commencer de cette façon-là. Les porteurs de brouillard, on va dire trois. Vous allez marcher en bas, là, de cour à jardin. Vous rentrez par les escaliers, vous allez en coulisses. Anita va rentrer avec la pelle pour pelleter les nuages. Quand ils ont dépassé le mât, les porteurs de brouillard, au centre, on découvre Cyril. C'est l'éclairage qui va te découvrir. Donc toi, tu es déjà là, dans le noir, quand le brouillard passe. Ok ? Ensuite.
Il faut presque monter avec.
Ouais, mais il faudrait que je la passe par-dessus le haut banc.
Je vous propose de vous mettre en place, on va commencer l'italienne.
Déjà, ce qui est important en tant que technicien en cirque plume, c'est qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques, mais il ne faut pas qu'on la sente. Ouais, il y a une grosse machinerie derrière.
Moyen, mais l'idée, c'est que ça ne soit pas lourd et que ça ressemble un peu à un vieux... Un vieux bateau, des trucs qui grincent, les choses ne sont pas complètement droites, mais c'est un peu le style de la maison, on va dire.
Il faut que ce soit un petit peu poussiéreux aussi.
Notre metteur en scène, il déteste un voile blanc tout neuf. Il le voit tout de suite, il hurle, il faut qu'il soit un peu sale.
Oui, ah oui, j'ai nettoyé le piano, il y avait un peu trop de poussière, il m'a dit « Oh là là, touche à rien !» Non, il aime bien la poussière, voilà.
La poussière, ça fait partie du décor du plume.
Ça fait partie de l'âme du cirque, on va dire. Ouais, c'est le chapiteau, c'est tout ça.
L'idée que ça soit le dernier spectacle ?
Pour l'instant, je ne pense pas trop, parce qu'on a quand même encore 3 ans de tournée derrière.
Ça va être une succession de dernières, on va dire.
Donc petit à petit, on va s'en rendre compte.
Et puis on vit ici, on n'est pas juste, c'est un mode de vie, on va dire, plus qu'un travail. On dort au travail, on est avec. Moi, je les connais depuis petit, tout petit. J'y étais quand j'étais jeune. C'est des amis.
C'est plus qu'un travail, c'est une deuxième famille. Ouais.
C'est souvent ce qui se dit dans le monde du cirque en général.
Oui, sauf que nous,
des tribus artistiques, d'une certaine manière, c'est souvent une deuxième famille.
On n'est pas issu de famille de cirque, aucun. Pratiquement.
Vous êtes tous venus par hasard, en fait, d'une certaine manière.
Oui, moi je suis comptable, hein. Au départ.
Cette estrade sera posée sur cette caisse. Tu te sens en sécu et tout, ça va. De toute façon, toi t'es centré, tout est centré ici, il faut pas que tu viennes te promener. Ouais,
je veux bien qu'on mette des freins, par contre, à la off-line.
D'accord.
Est-ce que j'ai fait dans le coin?
Le spectacle sur lequel vous travaillez, c'est un retour aux sources, aux éléments, aux saisons, à la nature.
Voilà, on va travailler, c'est la dernière saison. C'est un peu un jeu de mots, puisqu'on va arrêter après ce spectacle-là. Mais on habite ici, en Franche-Comté, un lieu où la nature est à peu près préservée. Il y a des avions qui passent, donc qui nous poulent les oreilles et un peu le ciel, mais... la nature est préservée. On habite à la campagne, les fondateurs du Cirque Plume. On n'habite pas dans le milieu urbain. On fait du jardin, on fait de la vigne, on fait des trucs autres que le cirque. La nature est tellement belle ici. On a lié notre vie à cette belle nature, aux torrents, aux cascades, aux forêts, aux grands sapins, à cette magie merveilleuse d'un monde, d'endroits naturels. On va traverser ce qui nous émeut dans la beauté de la nature, ouais, on va faire ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça va pas, t'es en train de faire un spectacle du 19e siècle. Et dans le spectacle, il y avait un élément qui n'est pas naturel, mais qui est partout aujourd'hui, qui va être obligatoire, c'est le plastique. Et la 5e saison, ce sera peut-être celle du plastique, quoi. C'est celle qu'on va bientôt vivre.
En bas, on a l'air de malades mentaux, mais...
Ouais. Mais... Non, mais... On sera pas éclairés.
Il me semble moins que d'habitude.
Non, mais c'est pas pire que de se rouler dans les feuilles. Hein.
Voilà, c'est super beau.
Exactement.
Un dragon sorti des abysses. Ouais, c'est bête qu'il vienne du fond des océans.
Là,
c'est
magnifique.
Qu'est-ce qu'on fait ? On se met de front ou bien on calme ?
Mettez-vous en grappe pour faire en sorte que le plastique puisse être au-dessus de vous, sans vous rentrer dedans.
Enfin, c'est pas une thèse, hein, le spectacle, c'est plutôt nos amours. Le cirque, on a toujours mis nos amours dedans. Nos amours de musique, nos amours de poèmes, nos amours de la nature, nos amours du lien, nos amours de l'envie, du collectif. Nos amours de la joie. Quand les gens sortent de notre spectacle, bon sang, ils ont la banane, la vraie banane, quoi. Ils se sont dit, pendant 2 heures, ça s'est mis à recirculer un peu, quoi.
les gars, si vous voulez, c'est bon. Salut. On a mal prendre le monde parce que comme la grande scène elle est occupée, eh bien, on en met un ici pour que je puisse continuer à pratiquer quoi. Et juste un truc, est-ce que je pourrais vous prendre un cutter que j'ai pas trouvé? Oh, trop classe. Trop classe. Je suis Amanda Righetti, acrobate sur mât chinois dans la nouvelle création du Cirque Plume. Mât chinois, c'est un poteau vertical qui mesure normalement 6 mètres. Le mien, il mesure 7 mètres 20 dans la nouvelle création. Là. Et c'est un poteau sur lequel on grimpe avec les pieds et les mains. On est en jean et manches longues. Il ne faut pas penser que c'est du pole dance. On peut confondre vite fait, mais ça n'a rien à voir.
Comment est-ce que vous avez fait connaissance du Cirque Plume ?
J'avais pas forcément vu des spectacles, je savais que c'était une grosse compagnie. Et je sortais d'école et il y a une audition qui a tourné, et du coup j'ai passé l'audition. Et à différence de d'autres compagnies, c'est ça qui m'a charmé de suite, c'est que normalement tu te déplaces et normalement ils voient 400 personnes. Et là ils ont fait une grosse sélection sur dossier. Et à moi ils m'ont proposé que même eux ils pouvaient se déplacer pour venir nous voir. Et c'est hyper touchant parce qu'il n'y a aucune grosse compagnie qui fait ça. Et après, du coup, l'audition, ben, c'est tu présentes un numéro ou tu présentes un peu qui tu es. Et là, ce qui était génial, c'est qu'on a, à différence d'autres compagnies, on passe une journée avec eux, complète. Et du coup, on passe du temps et tu vois un peu l'énergie. Il n'y a pas que ce que tu fais sur scène, mais aussi ce que tu vas vivre.
Bernard Cudlac, c'est le metteur en scène.
Ouais.
Il a scénographié la totalité de son spectacle, mais il laisse du champ libre.
Il y a un échange, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont pensées pour toi. Donc pour moi ça c'est nouveau, puisque je me sens un peu des fois interprète, mais à la fois c'est fait avec une tellement bonne bienveillance. Et du coup c'est chouette, c'est des contraintes qu'il faut prendre et dans le bon sens et en faire quelque chose.
Ces choix-là, ils vous déconcertent ou pas ?
Eh bien, au début ça m'a énormément déconcerté parce que c'était pas mes choix. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, bah, c'est pas mes choix, mais c'est comme ça. Et il faut qu'avec ça, il y a quelqu'un qui m'a dit de la troupe, ne les prends pas comme des contraintes, prends-les comme des cadeaux. T'as une scène, c'est un cadeau. T'as une musique, c'est un cadeau. Donc à partir de ça, il faut que toi, t'arrives à vivre là-dedans. Après, quand on signe un contrat pour 3 ans, on a envie de faire sur scène des trucs qui nous parlent vraiment à nous. Du coup, au début, moi, je me suis beaucoup bloquée. Et j'étais sur la musique, sur une scénographie que je n'avais pas choisie. Mais maintenant, je commence à avoir une autre attitude où je prends ce qu'on me donne et j'essaye d'en faire quelque chose de beau ou de partager. Pour moi, c'est plus mon numéro, c'est le numéro de plusieurs personnes.
C'est quelque chose. Il faut mettre un peu son ego de côté.
Complètement. Il faut apprendre à fermer sa gueule. Et moi, en tant qu'espagnole de pur sang, j'ai eu un petit peu du mal, mais je pense que j'apprends énormément.
Qui sera joué
dans
la dernière saison.
Oui, tout à fait. C'est une ligne de basse pour le numéro de Ma de Amanda.
Un temps qui est en pleine création en ce moment, en fait.
On est toujours là-dessus, à chaque jour, chaque nuit aussi, parce que même la nuit, quand on dort, mine de rien, on ne pense plus qu'à ça, vu qu'on s'approche doucement de la date butoir.
Je vais vous demander de vous présenter.
Oui, alors moi, je m'appelle Laurent Tellier-Delova. Je suis au Cirque Plume depuis début 96. J'ai été embauché comme chauffeur poids lourd électricien, pour commencer.
Ouais, vous avez un parcours assez singulier, Laurent.
J'ai commencé comme colleur d'affiches, j'ai été embauché comme chauffeur, mais j'ai jamais conduit de camion au Cirque Plume, vu que je n'ai pas toujours pas mon permis poids lourd. Au fil des mois, on m'a demandé de venir travailler au plateau, donc s'occuper des manipulations d'accessoires, de décors, d'être là. Et au fil de la tournée, on m'a demandé de venir jouer un petit peu de percu sur un morceau. Et puis après, on m'a demandé de jouer de la contrebasse, alors que je n'avais jamais touché une contrebasse de ma vie. Et pour la création de Mélange, à la demande du maestro, qui était Robert Mini, je suis devenu musicien à temps plein.
Là. Colleur d'affiche pour le Cirque Plume. Et ouais. Puis, quelques années plus tard, contrebassiste sur scène. Comment est-ce qu'on passe comme ça, on va dire, de l'ombre à la lumière ?
Ouais.
À porter comme les autres le spectacle devant 1000 personnes tous les soirs.
Bah c'était magique, c'était un moment magique pour moi quand Robert m'a annoncé que voilà qu'il souhaitait que je passe musicien à temps plein. Moi je suis arrivé ici sans aucune ambition artistique. Jamais je me suis dit, je serais sur le plateau avec les autres.
Vous étiez prêt à faire n'importe quoi?
Ah bah, tout à
c'était
fait.
C'était ça l'idée.
Oui,
en fait.
C'était ça l'idée. Et puis d'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi par la suite, parce que je me suis mis à faire du trampoline sur Mélange, je me suis mis à faire de la bascule sur Plic-Poc. Oui, c'est la porte ouverte. Et c'est l'avantage ici, c'est qu'on nous laisse essayer absolument tout. Et c'est que des instants magiques. Il n'y a pas un seul spectacle depuis que je suis au Cirque Plume où je me suis ennuyé une seule seconde. Quoi. Même si, par exemple, Plic-Ploc, on l'a tourné pendant 5 ans, quasiment, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde sur Plic-Ploc. Tous les jours sont différents, les publics sont différents. Quand on a 1000 personnes qui sont debout à applaudir à la fin, ou qu'on aille, enfin... Voilà, c'est quand même exceptionnel. C'est un gros, gros privilège que de travailler ici avec le Cirque Plume.
Dans cet orchestre du Cirque Plume, il y a des absents.
Oui.
Il y a des gens qui sont partis, qui ont disparu, qui sont morts. Comment est-ce qu'on fait pour jouer avec ces absences-là? Parce qu'à un moment donné, c'est des gens qu'on comptait. Robert Mini, c'est un des fondateurs. Ça a été le maestro, voilà. Il y avait Alain Mallet aussi.
Oui. Ça fait beaucoup, oui. Ces derniers temps, on a pas mal morflé de ce côté-là.
Moi, je pense quand on joue ou pas.
Ouais, mais ouais. Moi, j'y pense tout le temps. Depuis que Robert est parti, c'est pas passé un seul spectacle sans que je lui dise merci dès que les premières notes de musique commençaient. Greg, bah pareil, je pense à chaque fois à Greg et Alain quand on est là, surtout qu'on faisait bien les couillons ensemble. C'était trois personnages rigolards avec qui on s'amusait bien. Et oui, ils manquent beaucoup, mais ils sont là, toujours. Parce que Robert, c'est encore quelque chose de particulier, parce que c'est lui qui m'a amené à faire de la musique sous le chapiteau. Et moi, il n'y a pas une journée sans que je pense à eux.
Les musiciens et les acrobates du Cirque Plume auront tous rendez-vous à un moment donné avec Nadia Genèse. C'est la costumière de la troupe. Elle est là depuis le début. Aujourd'hui, elle dispose d'un grand atelier au cœur de Besançon. Des piles de tissus, des dessins de vêtements épinglés sur les murs, des prototypes et des patrons. Nadia imagine, découpe et fabrique toutes les tenues du spectacle.
Je ne vais pas déguiser les gens en automne, en été, en printemps, évidemment en hiver. Mais j'ai trouvé un univers qui, moi, me parle dans la nature, à savoir, là, moi, j'ai bossé sur les lichens. C'est des choses très matérées, très végétales. Voilà, par exemple, des choses comme ça.
Du velours, du relief.
Du relief, de la brillance, de la texture. Il y a des choses vraiment, on va en avoir, bon, qui ne sont pas encore arrivées, mais il y a beaucoup de matière. Et à partir de là, je vais faire des choses très liquides, très fluides, par contre, qui vont glisser tout le temps, en fait. Un costume, c'est fait pour être juste, hein, pas forcément beau, mais... Comment je peux expliquer cet endroit où j'ai l'impression que si, depuis le début au Cirque Plume, si j'avais habillé les gens en ce qu'ils font exactement, que je raconte ce qu'ils sont, je pense que ça fait perdre aux gens de leur force. C'est-à-dire un clown qui est déguisé en clown, ce que je dis tout le temps, on voit que c'est un clown, bah, faut qu'il soit sacrément drôle parce qu'on s'attend à ce qu'il soit drôle. Mick, dans l'autre spectacle, dans Tempus, il a un petit costume noir rayé or... une chemise, il est assez élégant, il est décalé des autres, il n'est pas habillé comme les autres, il n'est pas dans le même univers, et c'est le clown, et on le découvre clown. On ne sait pas que c'est un clown, on ne sait pas qu'il va nous faire rire. Par contre, quand il nous fait rire, moi, personnellement, je trouve que c'est beau, c'est vraiment supérieur. Quoi.
Là, ce que Guillaume vient de faire, c'est la découpe du patron, du prototype.
Voilà, donc il a retravaillé à partir des mesures... d'une personne, un patron papier qui place sur une toile pour faire un essai, juste en gros d'une veste. Et après, c'est régler le confort, parce qu'on est au cirque quand même. Il y a beaucoup de mouvements et c'est hyper important que le vêtement soit confortable, en premier. Et peut-être qu'on lui fixera le col derrière.
Ouais, hein, on va lui fixer.
Ici, mais ça, on verra après. On va le faire.
Je vais le garder toute ma vie.
Toute ta vie.
Il y a Guillaume, c'est le temps des essayages, là.
On en fait un peu tous les jours, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on ne va pas dans le chapiteau pour faire ça. On fait ça en privé. Parce que sinon, tout le monde fait des commentaires et c'est assez insupportable. Hein ? Ah, c'est vrai, Nilo.
C'est vrai.
Non, pour l'instant, on règle les pièces. On a fait des toiles et maintenant, on règle les pièces finies, pas tout à fait finies. Les bras, voilà. Donc là, c'est Guillaume qui fait, moi, je regarde. Voilà, donc là on règle aussi techniquement, voilà, où on met des soufflets sous les bras. Si on veut que le manteau il soit porté, il faut qu'il soit vraiment confortable comme une seconde peau, sinon c'est une catastrophe.
Ça avance, on dirait.
Vous savez, nous en sommes tous de la création, là.
Là, on travaille un moment collectif, qui est à peu près un bon milieu du spectacle, donc qui est comme un moment où, voilà, où tout le monde se rencontre. Donc on essaye de trouver les caractères, que ce trait d'union soit au bon endroit. Voilà. C'est vrai que c'est un premier temps où les musiciens, tout le monde est là. Donc c'est important de savoir ce qu'on vient faire là. Effectivement, dans l'image qu'on a développée, il y a l'évolution de l'homme. Puis finalement, on revient à un passage où les hommes se chauffaient comme ils pouvaient. Une cellule d'acrobate comme une, voilà, comme une cellule. Puis de l'autre côté, un espèce d'homme singe assis qui attend. Et puis tout ça, à un moment, va se retrouver dans une confrontation humanimale. Voilà, pour arriver à l'humain. Ce groupe d'humains, pour l'instant on en est là, hein. On essaye déjà de, allez, pour employer des grands mots, de faire sens.
Avec cette petite difficulté quand même que vous êtes des acrobates, vous n'êtes pas des comédiens, vous n'êtes pas des danseurs.
Moi j'expliquais que je ne sais pas forcément me repérer sur un temps musical, donc je ne suis pas le seul apparemment, mais il se trouve qu'il y en a peut-être deux quand même qui arriveront, donc ils vont donner le bon signal visuel au bon moment pour que ça enchaîne de telle ou telle façon, parce qu'effectivement, à un moment, il faudra que ce soit calé en musique, et tout en dansant et en sautant, comme on, je pense, enfin, il faut que ça joue.
Toujours à ce que la musique soit porteuse d'images.
Benoît Chic compose toutes les musiques du spectacle.
Il y a beaucoup d'interactions entre les volontés des musiciens de pouvoir s'amuser dans ou créer dans leurs compétences, les attentes des acrobates, la scénographie, la lumière. La vraie force de la proposition musicale, quand elle est vraiment centrée là où elle doit être, c'est de pouvoir justement atteindre cette réunion. Quand je travaille, par exemple, là, je suis en pleine création, en pleine écriture des numéros, il y a pour Anaël, la contorsionniste, j'ai peut-être regardé ce qu'elle faisait, des vidéos différentes de son travail pendant une semaine. J'ai écrit peut-être 15 morceaux, 15 intentions différentes. Il n'y en a aucune qui marchait parce que j'étais encore trop proche de ce qu'elle faisait. Et j'ai décidé d'éclater complètement ça et d'aller complètement ailleurs. Elle a fait beaucoup de cabaret et j'étais parti sur quelque chose d'un peu facile à l'écoute, d'un peu drôle, d'un peu plaisant, de quelque chose qui était un peu guiré aussi, avec piano, contrebasse. Mais c'était facile, on la voyait très vite bouger là-dedans. Et donc on épuisait très vite sa proposition. Et je me suis dit, je pars en Afrique. Je fais quelque chose de très africain, très péchu, parce qu'elle a une façon de bouger, puis... J'ai fait une première tentative, puis au bout du compte, elle m'a fait penser un peu à Josephine Baker, dans sa façon de bouger. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller complètement ailleurs et de proposer, pour la contorsion, quelque chose de différent. Et il me semblait vachement intéressant de pouvoir lui proposer un cadre musical qui l'envoie complètement ailleurs de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la contorsion. Et en plus, avec une scénographie complètement barrée. Parce que là, c'est les musiciens, pour l'instant, ça se retient, mais on joue avec des abat-jours sur la tête, avec un drapé floral derrière, ça c'est complètement kitsch. Mais c'est justement cette apposition de juste la lumière, la scénographie, de la musique et d'elle, qui doit provoquer quelque chose de complètement unique. Oui, il y a encore beaucoup de travail, ouais.
Bon, ben on y va.
Ouais, allons-y, ouais.
Bonjour, je m'appelle Pauline Marquez-Genèse et là il est 14h27 et je suis à mon poste de travail. Habituellement pendant les tournées je suis habilleuse, donc je m'occupe de la gestion des costumes au quotidien. Mais en création je suis script, donc mon poste de travail...
C'est un ordinateur ouvert devant vous.
Voilà, mon ordinateur, une petite caméra pour filmer toutes les répétitions, des stylos, etc. Et donc le gros ordinateur là-bas pour toutes les personnes de la compagnie qui ont besoin de venir visionner les vidéos de travail dans le quotidien.
Vous êtes la mémoire de la création en quelque sorte.
Alors moi personnellement je ne sais pas, mais mes machines oui.
Vous avez un point commun très fort et très particulier avec le Cirque Plune, Pauline.
Alors, je suis la fille d'un des fondateurs, donc Jacques, qui revient sur scène pour cette dernière création, après à peu près 20 ans d'absence. Et je suis aussi la fille de la costumière Nadia Genèse, qui fait les costumes depuis toujours au Cirque Plume.
Donc vous êtes une enfant du cirque.
Oui.
Et vous avez cette particularité d'avoir grosso modo le même âge.
C'est ça, j'ai à peu près le même âge. Je suis née à peu près en même temps que la compagnie. Oui, donc j'ai grandi ici, avant d'y travailler.
Il y a même des artistes qui disent qu'ils vous connaissent depuis...
Oh, depuis que j'ai 3 jours.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Oui, ils m'ont tous vu grandir, effectivement. Ouais. J'ai eu une enfance tout à fait normale, en dehors du cirque, c'est-à-dire que j'allais à l'école comme tout le monde, etc. Mais dès que je pouvais, on venait en tournée. Mon père faisait les tournées à l'époque. Donc pendant les vacances, des fois un peu pendant l'école aussi, on venait au cirque, en tournée. Et une enfance du coup assez riche. Et c'est pas pour rien que j'ai fini par venir travailler là aussi.
Pour autant, ça n'a pas été votre premier travail.
Oui, j'ai cherché un bon moment quoi faire après le bac. Et je suis devenue diététicienne. Donc je suis diététicienne en vrai, dans la vraie vie. Et j'ai fait ça un temps, c'était assez passionnant. Mais j'avais une petite frustration par rapport au mode de vie, justement. Et j'ai pas tenu très longtemps dans mon bureau.
Comment vous expliquez cet appel du cirque ?
Je pense que c'est quelque chose qui a trait à la liberté. La sédentarité, c'est quelque chose qui me coince et qui m'éteint. Donc, je suis revenue à la maison. Voilà.
Sous ce grand chapiteau, on est au milieu des estrades, là, en face de la scène.
Oui.
On est... bientôt au commencement d'une fin avec une première qui sera la dernière première de ce spectacle-là.
Oui.
Comment est-ce que vous imaginez ces moments-là qui vont être une succession de dernières fois, en fait,
oui,
jusqu'au tout dernier spectacle dans 3 ans ou 4 ans?
Alors, je l'imagine difficilement parce que, comme je disais, je suis née en même temps. Donc, ça n'a jamais existé qu'il n'y ait pas le Cirque Plume dans ma vie, de près ou de loin. Donc c'est très particulier pour moi en tout cas, l'idée que ça s'arrête. Alors ça m'a fait peur il y a quelques années, l'idée qu'un jour ça allait s'arrêter, avant même que ce soit dit que ça allait s'arrêter. C'était une angoisse un peu, cette idée-là. Là du coup on est en plein dedans, j'en oublie presque que ça va s'arrêter là, en ce moment en tout cas.
Et on attaque maintenant, là, ce matin.
Alors là, on fait juste le placement des musiciens qui va un petit peu changer pour le jonglage de plumes.
Parce que j'avais en train de chercher la plume, peut-être que je peux...
Ah oui, tu voulais jouer avec les plumes.
Et après, j'ai la voula et je fais...
D'accord, ok. Belle histoire d'amour qui démarre.
Ok. Je m'appelle Jacques Marquez. J'ai 57 ans cette année. J'étais au départ du Cirque Plume. J'étais étudiant avant en biologie, écologie.
Ça remonte à quelle année, ça ?
Ça, c'était les années 80. Ouais, 78 le bac, 84 la fin des études et le commencement du Cirque Plume. Et après, bon, j'ai arrêté le cirque en 96.
Je suis allé voir.
Bon, il y en avait plusieurs. Il y avait que les dernières années, on avait tourné énormément. J'ai deux enfants qui étaient à cette époque-là, qui avaient 6 et 12 ans, je crois. Moi, je les voyais plus beaucoup, donc c'était quand même un peu compliqué. On avait quelques dissensions un petit peu au bout de 13 ans de développement d'activité. On n'était pas toujours d'accord sur l'avenir et sur le présent.
C'était quoi les dissensions ? Parce qu'on a l'impression, quand on vous voit tous aujourd'hui, d'une équipe soudée. Et du coup, on a du mal à imaginer qu'il y ait des craquements, des failles. En même temps, il y en a forcément dans une équipe.
Oui, bah, il y avait des questions, il y avait des questions d'ambition, d'ego, de choses, comment se répartissaient les tâches, les responsabilités, les bénéfices de quand ça marchait, tous les problèmes de groupe, quoi. Mais moi, je suis pas parti pour une raison, je suis parti pour un tas de raisons. J'avais envie d'aller voir ailleurs, j'avais envie de voir plus mes gamins, j'en avais un peu marre de la situation, effectivement, mais c'est une petite part de la décision, quoi.
Et pourquoi revenir pour cette dernière saison ?
Alors déjà parce qu'en faisant toutes sortes de métiers comme ça qui m'intéressaient, qui m'ont toujours intéressé, j'avais toujours dans l'idée que c'était mon cirque comme celui des copains et que c'était une possibilité que d'y revenir un jour. Quoi. Et puis vers ces dernières années, il y a 7 ans, je suis rentré comme directeur technique de la scène nationale à Besançon. Et puis les plumes sont venues répéter dans les salles que je gérais, quoi. Et donc on s'est revus un peu plus, on a partagé les bureaux avec Jean-Marie. Enfin, il y avait Robert Mini qui est le compositeur, qui était avec qui j'étais très très proche pour faire la musique. Enfin, on s'entendait bien. Et il m'a dit un jour, là on fait l'avant-dernier spectacle. Après, le prochain, ce sera le dernier sans doute. Donc j'ai pris conscience à ce moment-là que si je voulais un jour y revenir, c'était le prochain ou jamais. Et puis finalement, j'ai décidé de revenir faire la dernière pour boucler la boucle.
Pourquoi vous arrêtez alors ?
Et pour plein de choses, c'est-à-dire qu'on arrête.
Vous l'avez répété, vous l'avez écrit, vous avez parlé, vous avez dit le cirque, c'est une, je vous cite, une éternité de sauts périlleux.
Voilà.
Et vous êtes en train de fabriquer le dernier spectacle du Cirque Plume et ensuite ça sera terminé. Pourquoi ?
Alors, déjà.
Bernard Cudelac.
Là, on a fait une grande transmission juste en faisant nos spectacles. Derrière nous, il y a des gens qui ont vu ce spectacle, d'autres, puis des écoles se sont créées, puis il y a 400 troupes de cirque en France. Donc on peut arrêter, c'est pas ça qui va nous manquer. Il y a des merveilleux spectacles qui existent, ça va continuer. On n'a pas une idée mauvaise de la fin, tout est finitude. Il y a un petit poème d'Issa qui dit « Ne pleurez pas les bestioles, même les étoiles qui s'aiment devront se séparer ». Issa qui dit ça, vous dit au XVIIIe siècle. Donc tout a une fin. Plutôt que la subir, on préfère la choisir. Et puis, à côté de cette idée du rêve dans le spectacle, il y a quand même la réalité d'une grosse boîte qui embauche 40 personnes, etc. Et à un moment donné, paradoxalement, le Cirque Plume est trop fragile pour qu'on puisse dire on peut le donner à quelqu'un sans qu'il risque énormément.
Vous n'auriez pas pu transmettre.
Mais non, parce qu'on a,
on a
13% de subventions. Tout est fragile. On a un grand succès, donc on joue avec ce succès. La moindre caillou dans la chaussure, ça s'arrête. On file le cirque à quelqu'un. S'il se plante, on peut pas filer ça pour que des gens se retrouvent avec 500 000 euros de dette au bout de 6 mois, quoi. Ça, c'est pas possible.
La fragilité, elle est à ce point-là.
Ah ouais, elle est à ce point-là.
Sur
une entreprise
comme la vôtre qui pourtant fonctionne très bien. Vous le dites, n'a que 13% finalement de subventions. C'est-à-dire que si on prend si on regarde le verre autrement, c'est génial comme vous le dites.
Mais ici, on
c'est des spectacles pleins. Combien de dates ? C'est plus de 300 dates à venir.
On a mis en vente les places au mois de janvier pour le mois de mai à Besançon. Là, en 10 jours, on a vendu 20 000 places. Mais cette vente, c'est la confiance. Et ce qui est dingue, ça fait 30 ans que on ne marche que sur un succès total. Et c'est pas on marche et puis si on a un succès total, on en met plein partout dans les poches. C'est pas ça. C'est que si on n'a pas un succès total, on peut pas faire marcher cette boîte. C'est un exercice de funambule. Un funambule, il est vachement en équilibre sur son fil. C'est un grand équilibre, un funambule. Il n'y a pas de problème.
Il ne faut pas mettre le pied à côté. Mais...
Après, on peut dire Bernard Cudelin qu'il est prétentieux, après moi le déluge.
C'est ça que j'ai entendu. Non, puis même dire, ouais, il peut tout contrôler, ou je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on se dit, on a fait ce qu'on avait à faire, et maintenant, place aux jeunes. On est aussi dans un espace social où il y a que les vieux qui gagnent des ronds, il y a que les vieux qui font les choses, les jeunes n'ont pas de boulot, les jeunes ont du mal, les vieux cèdent pas leur place, etc. C'est vrai, on a un truc comme ça. Ben, nous, on va céder notre place.
Alors, en sortant, vous trouverez deux t-shirts à vente. Un beau et un très beau. Saurez-vous faire la différence ? Voilà, le Cirque Plume vous remercie de tout son cœur. Salut, fraternité !
C'était le Cirque Plume tire un trait. Un reportage d'Olivier Henry. Yann Fressy et Jean-Marie Porcher ont assuré la prise de son. Mixage, Cédric Châtelu. Anne Lioroux a réalisé cette émission avec l'aide de Stéphane Combe. Olivier Bénis a mis en forme les superbes photos de ce reportage, signées elles aussi Olivier Henry. Sachez également que si vous voulez connaître les prochaines dates des représentations du Cirque Plume, vous pouvez visiter la page d'Interception ou bien directement le site de la troupe. Toute l'équipe d'Interception se joint à moi pour vous souhaiter avec quelques heures d'avance une excellente année 2018. Très bon dimanche et à l'année prochaine !